انترفيو اكسبريسو.
كلين في برنامجكم حتى للتسعة امتع صباح، نهاركم زين، نهاركم مبروك. تدسي تحضر معنا ممثل صندوق النقد الدولي في تونس السيد جون فاشي اللي يكون حضر معنا في الاستوديو. سمعنا برشا حديث على صندوق النقد الدولي في الفترة الأخرى، حوار حصري 47 دقيقة. بونجور بيامنو افو سوري زون بيكسبريس افن.
بونجور واسيم، بونجور à tous vos auditeurs.
Merci d'accepter notre invitation.
Avec plaisir.
Quand j'ai demandé l'interview, j'ai demandé, j'étais pas sûr de l'avoir, hein, parce que je croyais que vous étiez déjà parti. On dit ces jours-ci que le FMI a retiré son représentant en Tunisie, alors vous êtes très gentil, vous êtes revenu de Washington, ou alors vous n'êtes pas encore parti?
Non, pas du tout. Je n'ai pas bougé. Par contre, ce qui est vrai, les choses sont très simples et très claires, c'est que j'avais un mandat de 3 ans comme représentant résident du FMI. J'ai commencé en janvier 2019, ce qui paraît loin maintenant puisque c'était avant la pandémie de Covid. Donc je termine mon mandat en janvier 2022.
Voilà, alors vous allez partir?
Oui, malheureusement je dois partir de Tunisie avec beaucoup de regrets. Car évidemment c'est un pays très attachant, avec une richesse humaine exceptionnelle et un potentiel extraordinaire qui a besoin d'être développé. Et je dois dire que je suis d'ailleurs particulièrement honoré d'être dans cette interview entre deux interviews sur des startups qui sont particulièrement intéressantes et particulièrement dynamiques et qui témoignent du potentiel humain très important et du talent, de tout le talent qu'il y a en Tunisie. Donc tout ça va me manquer, mais je resterai évidemment un ami de la Tunisie et la Tunisie restera dans mon esprit pour longtemps.
En tout cas, je suis très content que vous appréciez ces interventions, parce que voilà, c'est des jeunes et des moins jeunes, hein, d'ailleurs, qui sont en train de construire le pays, de se lever tous les matins, qui essayent de produire, de faire avancer, de créer de la valeur. Comme notre slogan d'ailleurs, Express FM, créateur de valeur. Donc on essaye de booster toute cette énergie-là. Une question toute simple. On parle beaucoup du FMI, la question sur toutes les lèvres, du gouvernement, des décideurs, des citoyens, de voilà. Donc c'était peut-être pas le cas il y a quelques années, mais là c'est une question qui s'impose, qui devient une évidence, parce que c'est controversé d'aller auprès du FMI, ça faisait souvent polémique ces dernières années, mais là les gens commencent à dire de toute manière on n'a pas le choix, et on en est à se demander est-ce que le FMI va soutenir la Tunisie ou pas. C'est la question vraiment essentielle pour moi lors de cette interview, donc je vais commencer avec.
Écoutez, comme pour l'ensemble de nos pays membres, nous sommes là pour soutenir les pays dans leurs efforts de réforme et dans leurs efforts pour obtenir une économie soutenable, inclusive, qui permette de faire face aussi et de corriger éventuellement des déséquilibres qui empêchent d'atteindre ce sentier de croissance plus durable et plus inclusive. Donc nous avons été là pour soutenir la Tunisie de la meilleure façon que nous pouvons le faire, et c'est-à-dire en donc nous avons été en contact régulier avec les autorités tunisiennes et nous attendons de voir quelles sont leurs intentions en matière de réforme et dans quelle mesure nous pourrons aider le pays à obtenir ce sentier de croissance à moyen terme qui soit plus fort et plus inclusive avec moins de déséquilibre macroéconomique.
Les réformes, justement, il y a un document qui a fuité, je vais peut-être pas revenir dessus, on va peut-être même pas le mettre dans la vidéo, je pense beaucoup de gens l'ont vu, il y a ce document qui a fuité. Aujourd'hui, avant même de parler de ce document, est-ce que le FMI impose qu'il y ait un consensus autour des réformes?
Alors déjà, peu
Et là,
importe.
on va y venir, c'est-à-dire par rapport aux syndicats, etc. Voilà, c'est-à-dire, ça fait des années que vous venez nous voir. Moi je vais le dire, moi j'ai entendu ces choses en off, hein, je vais vous le dire. Donc, ça fait des années que vous venez nous voir, à chaque fois on nous promet des réformes, enfin, c'est pour vous, hein, ça je parle en tant que vous. Donc vous dites c'est pour vous, pour la Tunisie.
Les réformes sont pour la Tunisie.
Voilà, donc vous allez les faire, mais à chaque fois, il y a un engagement, des caisses de l'argent, et derrière, les réformes ne sont pas faites, ou en tout cas, une grande partie de ces réformes ne sont pas faites, ou alors entamées, mais non finalisées, etc., pour plusieurs raisons. Instabilité politique, etc. Donc, et parfois aussi, selon vous, c'est à cause du fait qu'en amont, elles ne font pas légion, elles ne sont pas validées ou appuyées par les big stakeholders, par les grandes entités qui ont un poids de décision dans ce pays, en l'occurrence les syndicats et tout. Donc cette fois-ci, vous auriez dit que venez nous voir avec des réformes qui sont d'ores et déjà appuyées par les différentes parties prenantes. Et là, on va en discuter, est-ce que c'est vrai? Vous mettez cette condition.
Alors sur le premier point, je dirais tout d'abord que peu importe la question du support, ce qui compte c'est la substance de ce qui peut être discuté, ce qui peut être présenté comme programme de réforme à la population tunisienne. Sur votre deuxième point, effectivement, vous rappelez peut-être que l'année dernière, nous avons fait une consultation qu'on appelle au titre de l'article 4 dans notre jargon un peu technique peut-être, mais qui était une consultation annuelle qu'on fait avec tous les pays membres. Et dans le cadre de cette consultation annuelle, on a publié un rapport dans lequel effectivement nous avions insisté sur le fait qu'il est particulièrement important que sur des grandes réformes qui nécessite un engagement fort sur le moyen terme, il y ait un dialogue avec les principales parties concernées et que tout le monde, fondamentalement, se mette autour de la table et y mette du sien sur toute une série de sujets assez qui seront importants dans les années à venir. Donc, aussi bien au niveau des finances publiques, d'ailleurs, que au niveau des réformes structurelles. Donc ça c'est ce qu'on a un petit peu essayé de communiquer déjà l'année dernière. Donc c'est quelque chose de sur lequel on a déjà pas mal insisté. Et il est vrai que lorsque l'on s'engage dans un programme de réforme, et en particulier dans un programme de réforme à moyen terme, il est particulièrement important aussi d'avoir le maximum de crédibilité dans ces engagements. Et donc c'est aussi évidemment une façon d'asseoir la crédibilité d'engagement sur des sujets importants comme celui de la masse salariale, comme celui de la réforme des entreprises publiques, l'amélioration de l'environnement des affaires. Tout ce qui sera important comme sujet pour les années à venir et pour enfin placer la Tunisie sur une croissance plus forte et plus durable, soutenable et inclusive. Mmh.
Quelles sont les réformes, selon vous, attendues, importantes en Tunisie?
Alors, encore une fois, je pense que c'est quelque chose dont on a pu discuter à de nombreuses reprises. Que l'on a également aussi communiqué dans le cadre d'un rapport qui a été publié au printemps de l'année dernière.
Si on devait faire la version entre guillemets sharp, vraiment les 2-3 réformes, parce qu'il y en a plusieurs, vraiment les 2-3 réformes essentielles qui doivent être entamées le plus tôt possible sur cette année.
Alors je dirais qu'il faut que, étant donné les défis qu'on connaît pour la Tunisie, notamment celui de déséquilibre au niveau des finances publiques, mais aussi au niveau des comptes extérieurs, et d'une croissance qui a été trop faible pendant les dernières années. Compte tenu de ces défis, je dirais qu'il faut qu'on avance avec deux axes principaux. Un qui concerne la résorption des déséquilibres macroéconomiques et l'autre qui permettent d'augmenter au maximum la croissance via des réformes structurelles qui doivent réformer aussi en profondeur cette économie. C'est une économie qui a beaucoup de potentiel, on l'a dit tout à l'heure, qui a un talent extraordinaire, qui a une localisation géographique tout à fait bonne, qui permet aussi à la Tunisie de s'insérer dans toutes les opportunités qui peuvent exister au niveau de l'économie mondiale. Donc il faut aussi redonner une perspective et une visibilité aux décideurs et en particulier aux investisseurs, que ce soit aux investisseurs tunisiens comme aux investisseurs étrangers pour créer de l'emploi. Et pour ça aussi, il faut une vision de ce que le pays va faire sur les prochaines années. Il faut aussi, évidemment, ce qui est particulièrement important, que cette vision soit tirée, si je puis dire, par une ambition pour ce pays. Alors, sur les différents sujets, bon, juste pour aborder les aspects plus de finances publiques, il y a toujours le défi qui se pose important de celui de la masse salariale dans la fonction publique. Qui reste particulièrement élevé à un pourcentage du PIB, mais surtout qui crée une très grande inertie dans les dépenses publiques et qui ne permet pas d'affronter les défis que la Tunisie doit affronter, aussi bien au niveau de l'efficacité de sa dépense publique, d'une bonne allocation des ressources en matière de fonction publique, que de dépenses d'avenir, notamment dépenses d'investissement et de dépenses sociales qui seront particulièrement importantes pour faire face aux prochaines années. Donc il y a aussi parmi les différents sujets dans la partie macroéconomique, mais je pense ça rejoint un problème structurel. Il y a aussi la question de la réforme des entreprises publiques, où là aussi il y a besoin d'une vraie stratégie, d'une vraie vision sur ce que l'on va pouvoir faire pour moderniser et rendre efficace ce secteur. Et là encore, ça a un impact non seulement en matière de finances publiques, mais en matière de compétitivité de l'économie tunisienne.
C'est très clair. Alors, trois questions pratiques liées l'une à l'autre, on va se terminer avec ça. Alors, un, est-ce qu'il peut y avoir décaissement cette année? Deux, de combien? Et trois, sous quelles conditions? C'est un décaissement à partir d'une mise en œuvre ou à partir d'un plan de réforme clair? Est-ce que c'est sur 2022? Donc, un, est-ce qu'il y a un décaissement cette année? De combien? C'est-à-dire, on parle de combien au maximum, s'il y a accord, s'il y a mise en œuvre, etc. Donc, quel est le montant maximum sur cette année, je veux dire? Et derrière, quelles sont les conditions?
Alors, comme vous le savez, moi, je suis toujours prudent et je ne m'engage pas à faire des promesses. Ce que je peux dire, c'est
que j'ai beaucoup parlé au conditionnel. Est-ce qu'il pourrait, à quelles conditions et quel est le maximum? Parce que là, c'est technique. On sait quel est le maximum qu'on peut atteindre en fonction de... Voilà.
La première chose à déterminer, c'est effectivement dans quelle mesure... les autorités tunisiennes pourront présenter un programme de réforme qui permette d'adresser les défis de l'économie tunisienne.
Il y a un document qui a fuité, si vous l'aviez vu, est-ce que vous pensez qu'il est à la hauteur de ses attentes?
Donc, un programme qui permettrait de répondre aux principaux défis macroéconomiques de l'économie tunisienne. Qui permettrait d'atteindre donc un sentier de croissance plus élevé, plus inclusif, une grande question pour la Tunisie, et plus soutenable sur les prochaines années. Nous avons été en contact régulier depuis longtemps avec les autorités tunisiennes. Une partie de notre travail, c'est justement de voir quelles sont les intentions de politique économique des autorités tunisiennes, d'évaluer la capacité d'éventuelles propositions faites par les autorités tunisiennes à effectivement redresser la situation et à mettre l'économie sur un sentier de croissance plus durable, plus soutenable, de chiffrer évidemment toutes les implications, aussi bien macroéconomiques qu'en matière de finances publiques, puisque ça fait partie de notre travail aussi, d'avoir un travail de prévision, de voir si ce programme de réforme est soutenable, peut être soutenu par une institution comme la nôtre et par d'autres également par d'autres bailleurs et également dans quelle mesure cet engagement sur la durée vis-à-vis de la population tunisienne, parce que c'est de ça qu'il s'agit, est crédible aussi et permet de donner le maximum de visibilité possible aux agents économiques tunisiens pour qu'ils puissent prendre leur décision d'investir, leur décision en matière macroéconomique. Donc il sera particulièrement important, je pense, vu les défis auxquels la Tunisie, comme d'autres pays d'ailleurs, font face, d'avoir en main une vision qui permettent justement de faire face à tous les défis qu'on connaît.
Si ces conditions sont réunies, il pourrait y avoir des caissements d'une partie avant la fin de cette année, en 2022.
Alors, sans parler de calendrier, ce qui est important pour nous, c'est qu'un programme qui soit un programme de réforme qui soit suffisamment profond. Qui fasse suffisamment face aux défis de la Tunisie, qui permettent d'atteindre un sentier de croissance plus fort, soit mis en place. À partir de là, ce programme de réforme sera mis en place avec une forte crédibilité, nous serons là pour soutenir la Tunisie.
D'accord. On parle de combien? Quels seraient les montants c'est-à-dire, là, on parle vraiment, vous savez ce que vous pouvez faire. Donc, en fonction de ce que vous avez une idée globale. Parce qu'on parle d'un programme de combien avec la Tunisie, même si elle a été suspendue.
Alors,
il n'a pas été chiffré.
On ne parle pas de. Vous dites de programme ça. De combien. Ce qui est important pour nous, c'est typiquement lorsque l'on discute un programme de soutien, la détermination du montant vient à la fin des négociations, puisque. En fait, il découle d'une part de l'analyse du cadrage macroéconomique et au final des besoins de financement qui sont identifiés. Donc, il est tout à fait trop tôt pour parler d'un quelconque montant.
Jérôme Vacher, c'est probablement votre dernière interview en Tunisie. Vous allez quitter, comme vous l'évoquiez en début de cette interview. Alors qu'avec quel sentiment vous quittez la Tunisie? Est-ce que votre successeur ou la personne qui va vous succéder, est-ce qu'elle est déjà prête? Parce que pour éviter toute polémique autour du FMI qui retire son représentant en Tunisie.
Oui, alors bon, déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, les choses sont très simples, donc il ne s'agit pas de retirer un représentant résident, mais c'est tout simplement que nous avons un mandat de 3 ans, et ça sera aussi le cas pour mon successeur. J'ai commencé en janvier 2019, avant cette période de pandémie, et donc je termine en janvier 2022. C'est vrai que je pars avec beaucoup de tristesse, puisque c'est un pays totalement attachant et, comme je l'ai dit, qui restera dans mon esprit, dans mon cœur pour longtemps. Et donc je serai toujours un ami de la Tunisie et de tout le potentiel qu'a ce pays, dont on a un petit peu parlé tout à l'heure. Donc voilà, je pense que c'est toujours difficile, mais en même temps, ça fait partie de mon rôle et de mon métier aussi, de malgré les difficultés, de toujours garder espoir. Car fondamentalement, nous faisons ce métier parce que nous pensons que les choses peuvent changer, peuvent s'améliorer.
Donc la personne qui vous succède, on connaît déjà, enfin, je ne cherche pas forcément à avoir le nom, mais est-ce que la personne est prête? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que c'est dans la
Oui,
continuité?
tout à
D'accord,
fait,
très
tout
bien,
à
d'accord.
fait. Donc la transition se fera
D'accord.
d'ici la fin janvier.
Très bien.
Donc c'est un processus tout à fait normal et il est bien préparé et il est bien évident que nous avons une transition qui se fera de manière tout à fait naturelle. Et ce que je veux dire, c'est qu'on a tendance parfois à personnaliser les choses, mais c'est un travail d'équipe, aussi bien de notre côté que du côté des autorités
C'est
tunisiennes.
pour couper court, sérieusement, de retrait, parce qu'en plus, puisque vous allez vraiment partir dans quelques jours, donc ça peut alimenter le fait, oui, voilà, le FMI retire, donc voilà, il y a un successeur, il y a une personne qui va succéder. Voilà. En 5 secondes, quel est votre message aux décideurs, soit politiques, tous les décideurs de ce pays qui vous écoutent en ce moment, quel est votre message?
Alors mon message, c'est...
Je ne dis pas de recommandation, pas de sens, c'est vraiment un message. Quel est votre message?
Non, mon message, ça serait que pour tout décideur politique, et c'est vrai partout, mais je pense que vu les défis auxquels fait face la Tunisie, c'est particulièrement important en Tunisie. Ce que j'encourage les décideurs politiques, c'est à montrer à la population quelle est leur vision sur les années à venir, à expliquer les difficultés en disant que en étant tout à fait clair sur les défis qui peuvent être rencontrés, sur le fait que le chemin peut être parfois difficile, mais que l'on a un objectif clair. Et que l'on a une ambition pour ce pays. Donc, ce serait mon principal message.
Merci à vous, bonne continuation. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Et puis, on va suivre de très très près ces négociations, en tout cas entre la Tunisie et le FMI. Vous avez une date pour ça, d'un début de négociation? Non, rien n'est clair pour l'instant. Merci à vous.
Merci beaucoup.
شكرا لك عقد معنا مستمعينا فاصل راجعين نحكي مع كريم بجيري استدي بعد شوية عن سكوب مونديال عالمي ستارت اب تونسية تساهم في الحرب ضد الكوفيد بطريقة سينيفيكاتيف كما نقولوا تفاصيل بعد شوية